énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, juste diversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine, à Delirium Environnemental, une émission bien spéciale. En effet, c'est la première. On lance la saison 2004-2005. Alors, ça nous fait bien plaisir de vous retrouver. Cette semaine, donc, pour vous divertir et vous informer, on commence par vous informer, justement, des améliorations apportées à l'émission ainsi qu'au site web que vous trouvez toujours au www.radiodelirium.net. Ensuite, ben, on va vous mettre au parfum de ce qui s'est passé pendant cet été 2004 en matière d'environnement. Pendant que vous étiez en vacances, ben, l'environnement, lui, n'en prend pas. Et on termine, comme d'habitude, par nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Légende au micro, comme d'habitude, en compagnie de l'équipe magique, ça veut dire Nicolas Mainville, Nicolas Milo, Patrick Bonin et Hugo Lachapelle, qui est de retour parmi nous en personne. Messieurs, comment allez-vous?
Très, très bien, très, très bien.
Excité.
Wow, c'est une belle réponse. Alors donc, l'équipe magique, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, pour ceux qui nous connaissent, on se rafraîchit un peu, on se remet à l'esprit, mais qui est cette équipe magique, cette équipe multidisciplinaire? En fait, c'est les deux Nicolas, le Patrick et le Hugo. Formation, messieurs, Nicolas Mainville, donc une formation en biologie, il nous éclaire souvent sur les tenants et aboutissants du monde biologique dans lequel on vit. Peut-on dire ça? J'imagine que oui.
Ça se dit.
Nous parle particulièrement des enjeux qui touchent l'international. Y a-t-il des enjeux environnementaux qui ne sont pas internationaux? J'en doute. Nicolas Milo, lui, de formation en ingénierie mécanique, si ma mémoire est bonne.
Exactement.
À la Polytechnique.
Non, l'Université Laval.
Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ouh. Et maintenant, étudiant au doctorat, rien de moins, il s'intéresse aux enjeux sociopolitiques.
Un petit virage,
c'est sain, je pense. Patrick Bonin, une formation en administration des affaires. Il a fait une spécialité sur les questions de danger et de sécurité, concentration danger et de la sécurité.
Exactement.
J'y arrive un jour.
Bravo.
Hugo Lachapelle a étudié à Ottawa. Et oui, ça c'est au Canada, pour ceux qui ne le sauraient pas.
Bachelier en sciences de l'environnement.
Et oui, ça existe déjà, un bac en environnement. Et Sofiane Legendre, formation en communication politique à l'Université de Montréal.
Juste rajouter, parce que c'est pas évident à première vue, mais on s'est tous connus à la maîtrise en sciences de l'environnement que Nicolas, d'ailleurs, a fini, Nicolas Milo.
Ah, moi aussi. Donne-moi un peu de crédit.
Désolé. Mais c'est le point commun. Enfin, on est tous étudiants maîtrise sciences de l'environnement.
Eh oui, c'est de là qu'est né le beau projet à l'Institut des sciences de l'environnement, donc affilié à l'UQAM. Bonjour à tout le monde de l'Institut. Pour les nouveautés, je vous disais qu'on commençait par les nouveautés. Donc, des nouveautés, d'abord, le site web a été revu et amélioré pour tous ceux qui veulent aller y faire un tour. Je pense que c'est absolument magnifique ce que Étienne Côté-Paluc, ça c'est le collaborateur silencieux, a réussi à faire de tout ça. Vous trouvez le site au www.radiodelirium.net. C'est toujours possible d'écouter les émissions qu'ils ont archivées, ainsi que d'aller écouter les... mais lire également les nouvelles quand on vous fait des revues de presse. Autre amélioration, ben on a décidé de vous donner un petit break, de vous laisser une petite pause. Désormais, on vous revient à chaque semaine, mais plutôt que 2 heures, on sera avec vous pendant 1h30, donc on tentera d'être un peu plus concis.
Ah, on s'est dit, en fait, de réduire le format un peu, ça rendrait l'information un peu plus accessible. Puis ce qu'on va faire aussi, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'aller sur notre site Internet, si vous voulez écouter les différentes capsules qu'on fait, les différents dossiers. On va les diviser en 3 sur notre site Internet et vous allez pouvoir downloader ça.
Télécharger, merci.
Donc, c'est plus accessible pour vous et évidemment, vous allez avoir accès à une quantité phénoménale d'informations.
Et donc, finalement, dernière amélioration, à chaque semaine, ceux qui en ont envie, vous pourrez recevoir une newsletter ou plutôt un bulletin d'information ou encore une cyberlettre, tout dépendant de vos allégeances. Donc, sur une base hebdomadaire, ça va être question de vous informer. Vous saurez donc de quoi il sera question à l'émission à chaque semaine et vous pourrez également accéder au calendrier et vous aurez un lien pour aller directement sur notre site Internet pour écouter l'émission si c'est le cœur vous en dit. Et bien sûr, nous contacter, nous envoyer vos questions, vos commentaires, parce que ça nous fait toujours plaisir. Finalement, donc, c'est un peu pour le tour. On peut peut-être se flatter la bédaine, une petite tape dans le dos. On a été honorés par la Fondation québécoise de l'environnement en mai dernier. nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir un phénix de l'environnement. Donc, pour ceux qui sont curieux à savoir, mais qu'est-ce que c'est? Allez voir sur notre site web, vous verrez tous les détails. This is it. C'est un magazine d'information en environnement, question de vous permettre de savoir ce qui se passe sur notre belle planète et surtout ce qui s'est passé cet été. On a jugé utile de vous faire un résumé de l'actualité environnementale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui nous donnent le goût de pleurer, mais il y a aussi des choses qui nous font sourire et on a décidé de commencer par les bonnes nouvelles. Donc, une très, très bonne nouvelle, ça s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Nos cousins européens, en fait, nos cousins français ont posé un geste, ma foi, admirable. Nicolas Milo, tu nous en parles.
C'est un événement qui va donner des munitions à bien du monde, je le crois. Le 25 juin dernier, donc au tout début de l'été, le Sénat et le Parlement français donnaient le feu vert à une révision constitutionnelle afin de permettre à la nouvelle charte de l'environnement française de faire partie de la Constitution française. Donc, au même titre que les droits de l'homme, qui sont entrés, comme on le sait, lors de la Révolution française en 1789, les droits économiques et sociaux qui sont entrés dans la Constitution française en 1946, eh bien aujourd'hui, l'environnement a des droits et aura des droits, car il reste encore bien du travail à faire, mais on parle entre autres de rentrer le principe de précaution dans la Constitution française. Donc, ce qui est intéressant, premièrement, pour les Français eux-mêmes, de pouvoir désormais engager des poursuites au niveau constitutionnel face à l'environnement, mais aussi à nous, ici au Québec, qui pourront dire à nos gouvernements, regardez, là, il y a des personnes qui ont déjà pris l'initiative, et c'est pas seulement des groupes citoyens ou des groupes environnementaux, c'est l'État qui est en marche pour une amélioration de l'environnement et l'inscrire dans sa Constitution.
Est-ce que vous savez justement si c'est le premier pays à prendre cette initiative-là?
À ma connaissance, oui. À ma connaissance, c'est les premiers. Bravo, nos cousins, wow. Les Français. On est fiers de vous. On vous en reparlera peut-être un peu plus tard en vous parlant plus spécifiquement des différents articles qui constituent cette charte-là. On sait que la charte, c'est à la base des droits, donc les droits de l'environnement étant reconnus, on pourra enfin y référer. Une autre bonne nouvelle au niveau du droit, la Cour suprême du Canada a pris une belle décision. Patrick Bonin?
Bien oui, le plus haut tribunal canadien, je vous le répète, la Cour suprême a décidé que les pollueurs pouvaient être poursuivis par le gouvernement et justement une compagnie de Colombie-Britannique qui s'est retrouvée avec une amende de 2,5 millions de dollars parce qu'elle avait justement dégradé une forêt.
On veut des noms.
Eh bien, je vous le nomme. La Canadian Forest Products qui a fait ça en 92. Eh bien, un feu de forêt qui avait ravagé une forêt justement. Et ce que ça dit, c'est un précédent. C'est la première fois qu'on donne ce genre de jugement-là, qu'on peut dire vous avez dommagé un bien public et on a quantifié la valeur de la forêt. Donc, on a dit la forêt, c'est pas juste des arbres, il y a de la vie dedans. Évidemment, la méthode de quantification qui nous a permis d'arriver à 2,5 millions de dollars, ce qu'on dit, c'est qu'elle est pas parfaite, qu'elle est encore arbitraire, mais par contre, ça met énormément en garde les compagnies. Toutes les compagnies qui, justement, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, eh bien, ils peuvent se faire maintenant poursuivre par le gouvernement.
J'en retiens que c'est une belle nouvelle, mais que c'est vrai que quand on essaie de donner une valeur aux écosystèmes, il faut toujours être prudent, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. On se souvient que dans le cadre de l'ALENA, les compagnies avaient le droit de poursuivre les gouvernements. Donc, enfin, là, ça sera arme égale, peut-être.
Exactement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça peut s'appliquer à autre chose que la forêt. Évidemment, on parle de l'air, de déversement de pétrole, de contamination de l'eau.
Ah, ben, vous m'envoyez bien heureuse. On y reviendra probablement souvent. Plus proche de nous, peut-être, le moteur écologique qui l'a cru. Il y en a qui ont pensé que c'était peut-être le moment de ressortir cette carte-là de leur jeu.
Eh bien, oui. Le fameux moteur roue développé par Hydro-Québec au début des années 90 refait surface après avoir passé près de 10 ans, en plus dans les coulisses de cette entreprise-là. Alors, par l'entremise de sa filiale TM4, Hydro-Québec a développé une association avec la compagnie Peugeot, la compagnie française, et vont dévoiler dès le 23 septembre 2004, la semaine prochaine, le nouveau modèle qui s'appelle le Quark, qui est basé, qui utilise cette technologie-là. Alors, c'est un premier pas vers le développement de l'utilisation du moteur roue. Il y a aussi la compagnie Dassault et Eniez, si je ne me trompe pas, Eliez, qui sont en train de mettre sur pied des véhicules de ce genre-là.
Bon, ben, c'est une autre belle petite nouvelle. Faut voir justement si on les met en place, est-ce qu'on va les utiliser, est-ce qu'on va les commercialiser. Petit commentaire un peu stupide, le nom est pas très marketing. Mais bon, c'est très, très personnel.
Pas très marketing, mais c'est encourageant de savoir justement, on savait qu'au Québec, on était passé à un cheveu que ça se réalise, ce moteur roue-là. Et par, en fait, Hydro-Québec a décidé à l'époque de ne pas réinvestir davantage dans le projet. Et entre autres, on parlait évidemment d'un énorme lobby de l'automobile, mais également de tout ce qui est pièces automobiles, bougies, huiles, et etc., qui ne voyaient aucun intérêt, évidemment, à ce que ce moteur-là arrive, qui est révolutionnaire.
C'est pour ça qu'il était resté sur les tablettes, d'ailleurs. Ben, finalement, vraiment, c'est une belle nouvelle. Merci beaucoup, Hugo Lachapelle, de nous en avoir parlé. Cet été, plusieurs automobilistes sacraient à cause du prix du gaz. On a d'ailleurs vu une petite, un petit espace de plus s'ajouter chez les garagistes pour pouvoir mettre un autre chiffre dans le prix du gaz. Toi, Nicolas Mainville, tu m'en parles, et pour toi, c'était la bonne nouvelle de l'été.
Ben oui, bonne nouvelle de l'été, je vais dans la controverse, en fait, parce que je sais que ça fait sacrer bien des gens, mais c'est intéressant de voir que depuis la montée des prix de l'essence, eh bien, les ventes de SUV, ces gros utilitaires sport, ont diminué drastiquement aux États-Unis, et là, c'est les compagnies, les grands constructeurs américains qui commencent à chialer, et je considère ça comme une très bonne nouvelle pour l'environnement. Je nomme juste quelques chiffres comme ça, vous connaissez le bon vieux Hummer, qui est construit par GM. Eh bien, on parle de 33% de diminution des ventes pour cette année à cause de l'augmentation des prix du gaz. Évidemment, le Ford Expedition et le Ford Excursion, des gros SUV, qui ont diminué jusqu'à 45% les ventes cette année. Donc, c'est ma bonne nouvelle de l'été. Même si c'est difficile pour ceux qui ont des automobiles, dites-vous que d'un certain côté, il va falloir qu'on fasse avec le fait que cette ressource n'est non renouvelable et qu'elle va devenir de plus en plus rarissime.
Et qu'elle est très endommageable dans l'utilisation
Évidemment.
Qu'on en fait présentement. Et surtout que les technologies existent. C'est ça qui est fâchant, c'est que les technologies existent. Dernière petite bonne nouvelle, Patrick Bonin?
Juste une petite stat, justement, pour notre gouvernement fédéral. Eh bien, 94% des Canadiens sont d'avis que le gouvernement fédéral devrait imposer des normes de consommation d'essence aux constructeurs automobiles.
Ben, dernière petite nouvelle, dans le même sens, la ville de Paris a interdit les SUV. Donc, petite nouvelle sur laquelle on vous reviendra, mais je pense que pour finir sur la question du prix du gaz et des SUV, des Hummer, la ville de Paris, il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond dans votre ville, mais ça, c'est un beau pas dans la belle direction.
Je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'on est au 21e siècle et qu'on entre dans le 3e millénaire et blablabla?
On s'en fout!
Et de la montée du Dow Jones et de la baisse du CAC 40?
On s'en fout!
Et du dernier prix Goncourt?
On s'en fout!
Et du gong?
On s'en fout!
Et du cours?
On s'en fout!
Et du contre?
On s'en fout!
Et du pour, et du côté jardin qui est à l'opposé du côté court, et du reste, et du fait qu'on s'en fout. De tous les cocoricots, du congolois sur ses ergots, du prétendu bon goût français, de la mode de l'été, des sondages d'opinion, des pseudo-révolutions, des faux débats qui font les beaux, des marchands de grands idéaux, du poétiquement correct, du musicalement sélect, de tout ce qui est formaté, de tout ce qu'il faut penser.
Mets les repas sur la place, avec tous les gens qui passent, rendre service aux voisins.
Ah oui, ça c'est oui.
Prendre nos affaires à main.
Ah oui, ça aussi.
Se tenir loin des lieux chics.
Ah oui, ça c'est oui.
Débattre avec Michonique.
Ah oui, ça aussi.
Les prénoms de Bretagne.
Ah oui, ça c'est oui.
Et l'ail de l'Allemagne.
Ah oui, ça aussi.
Les balles des bombes de balles.
Ah oui, ça c'est oui.
Et le forum rural.
Ah oui, ça aussi.
Mettre les peuples en ronde.
Ah oui, ça c'est oui.
Au forum des langues du monde.
Ah oui, ça aussi.
Les rêves d'Alain Fournier.
Ah oui, ça c'est oui.
Les cauchemars de Debré.
Ah oui, ça aussi.
Explorer la Bigorre.
Ah oui, ça c'est oui.
Travailler le folklore.
Ah oui, ça aussi.
Les rendez-vous de la Razette.
Ah oui, ça c'est oui.
L'Opanaya de l'Estanquette.
Ah oui, ça aussi.
Vivre sa vie en chantant.
Ah oui, ça c'est oui.
Faire improviser les gens.
Ah oui, ça aussi.
Apprendre le tamazir.
Ah oui, ça c'est oui.
Écouter les chansons d'Idir.
Ah oui, ça aussi.
Le chapeau de l'Ampiao.
Ah oui, ça c'est oui.
El Ouadou Sertao.
Ah oui, ça aussi.
Habiter rue de la Sardine.
Ah oui, ça c'est oui.
Papa ôter la voisine.
Ah oui, ça aussi.
Lire les livres de Castan.
Ah oui, ça c'est oui.
Traduire Vien en Occitan.
Ah oui, ça aussi.
Inventer son emploi.
Ah oui, ça c'est oui.
travailler dans la joie.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Les voyages à prix faible. Les études à TLM.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Les contre-pouvoirs civiques.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Les discussions socratiques.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Aller manger à l'esquinade.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Jouer au foot sur l'esplanade.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Parler avec tous dans la rue.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Accueillir les nouveaux venus.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Réinventer les grandes valeurs.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Civiliser ses humeurs.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Pratiquer l'humour courtois.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Et l'amour en patois.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
On nous a dit pour réussir, faut monter à
Paris.
On nous a dit pour réussir, faut monter à
Paris.
On nous a dit pour réussir, faut monter à
Paris.
Ah oui, chez nous, entendu, ça y en a plein con.
Paris.
Ah oui, chez nous, entendu, ça y en a plein con.
Paris.
Ah oui, chez nous, entendu, ça y en a plein con.
Paris.
Nous rigoler, nous décider, faire un entre eux.
Paris.
Nous rigoler, nous décider, faire un entre eux.
Paris.
Nous rigoler, nous décider, faire un entre eux.
Paris.
Nous rigoler, nous décider de rester pas.
Ici.
Nous rigoler, nous décider de rester pas.
Ici.
Nous rigoler, nous décider de rester pas.
Ici.
Et c'est toujours plat luna.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Toujours plat enseignante.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
A du bois sur ma planière.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Fa respirer au quartier.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Fa fête à la maman.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Oublie d'avoir eu papa.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Qui t'a pas eu des studios.
Ah oui, ça, ça, c'est oui.
Qui t'a pas eu des pinceaux.
Ah oui, ça, oui, ça aussi.
Ah oui, ça, ça aussi, ça, c'était les fabuleuses troubadours. Ils nous parlaient de Paris. J'ai fait une grossière erreur. Je m'excuse. Bien bas. Ils ont pas encore interdit les SUV, donc les sports utilitaires véhicules. Les véhicules utilitaires sport.
En fait, il s'agit bien d'une résolution qui a été passée par le conseil municipal.
Donc, c'est pas encore fait, mais pour avoir été à Paris récemment, il y en a pas beaucoup des SUV. Les voitures sont toutes petites.
On parle de 5% du marché européen.
Donc, c'est pas grand-chose quand même.
Ouais.
Mais bref, c'est une bonne nouvelle quand même, déjà, qu'on en parle. C'est déjà pas mal. Nous, on revient ici, plus proche de nous, au Québec. En fait, non, c'est pas vrai du tout. Au Canada, il y a un cabinet qui a été composé dans le silence de l'été. On a un nouveau ministre de l'Environnement, pourtant, M. Anderson, on l'aimait beaucoup quand même. Nicolas Milot, tu me parles de ce nouveau ministre de l'Environnement qui, ma foi, a fait crier plus d'un.
Oui, parce que parler du Québec quand on parle de Stéphane Dion, je sais pas si c'est nécessairement une bonne chose. Mais donc, vous savez que Stéphane Dion est notre nouveau ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, je vais tenter de laisser la chance au coureur. Donc,
bien
je vais
l'attitude.
Y aller. Ben oui, on commence et lui aussi commence car il est allé la semaine dernière de son premier discours officiel en tant que ministre de l'Environnement, un discours qu'il a fait à Calgary devant bon une assemblée évidemment composée de plusieurs personnes mêlées à l'industrie pétrolière de là-bas.
Il y a du pétrole à Calgary.
Oui, ça a l'air. Eh bien, son discours, croyez-le ou non, a été essentiellement centré sur une idée, joindre l'économie à l'environnement. C'est une donne qui est revenue sans cesse tout au long de son discours, donc nous rappelant que le monde est entré dans une nouvelle révolution industrielle où le développement économique n'a pas le choix de prendre en compte les problématiques environnementales, les enjeux environnementaux, qui a une espèce de, dans le fond, de protectionnisme environnemental qui est en train de se créer un peu partout dans le monde, et bien que le Canada accuse un retard sur cette scène-là. Je suis content de voir qu'il y a la même analyse que nous sur cette question-là. Donc, dire que le développement économique du Canada, qui a toujours été, dans le fond, je parle du Canada, un leader sur la scène internationale au cours des différentes révolutions industrielles, eh bien, il dit qu'il trouve désolant que le Canada ne soit pas plus en avance sur la scène environnementale au niveau planétaire et qu'il se doit d'augmenter de beaucoup la cadence pour rejoindre les pays qui sont déjà en avant. Monsieur Dion identifie 5 principales sources. La première, c'est pas surprenant, la science. Je crois que nos ministres de l'Environnement croient beaucoup en la science. Deuxièmement, bon, des stratégies de diffusion de l'information, l'éducation des décideurs et des citoyens. Intéressant qu'on entende enfin quelqu'un dire qu'il faut éduquer les décideurs. On parle d'incitatifs fiscaux et finalement, une chose qui est très intéressante, une des plus grandes faiblesses qu'ils trouvent au niveau de l'environnement au pays, eh bien, c'est au niveau de la décision gouvernementale. Donc, je pense qu'il y a du positif. Ce qui est un petit peu moins réjouissant, c'est quand on aborde des questions très ciblées avec M. Dion. Il a fait plusieurs interventions radiophoniques dernièrement. Et quand on l'interroge au niveau, par exemple, des OGM, eh bien, M. Dion se campe dans le discours, dans le fond, qu'on voyait depuis un ou deux ans au niveau fédéral. C'est-à-dire que le débat doit se poursuivre, les techniques de dépistage sont pas assez avancées. Bref, le baratin habituel. Quand on parle de pétrole, c'est que c'est la science qui doit décider et non de politique, ça peut être très dangereux. Bref, des petits points de vue qui sont peut-être très beaux lorsqu'on parle de théorie générale, mais où est-ce qu'on vient cibler des enjeux précis, c'est un peu moins évident.
Mmh. À sa décharge, quand même, il faut dire que oui, il y avait un discours économique et la fameuse révolution industrielle qu'il entendait par la vision environnementale qui devait s'insérer, c'est que ça a été fait devant, justement, des gens de l'Alberta, des gens de Calgary, et il a adopté son discours à eux. Intéressant de voir, par contre, qu'il parle également justement beaucoup des énergies renouvelables il veut qu'on s'en aille vers ça, et c'est un discours fait à des gens du pétrole, donc c'est intéressant, et d'essayer de s'associer avec la Californie, entre autres pour les normes au niveau de la pollution automobile, pour faire doubler le nombre de personnes qui voient ça.
On se souvient que l'Alberta est le grand producteur de sable bitumineux, donc le sable bitumineux duquel on extrait le pétrole et, par des procédés absolument et extrêmement polluants. Mais je pense que ça commence quand même sur note positive. Il faudra voir maintenant si entre le discours et les actions, il y a une cohérence. Mais bon, ça commence quand même positivement. Merci beaucoup, Nicolas Milon. On aura probablement l'occasion d'en reparler.
Oh oui.
J'espère. Une décision encore dans le rock, le reste du Canada. Bref, au Canada, Percy Schmeiser, une décision de la Cour suprême qui nous donne le goût de pleurer. Nicolas Mainville.
Ben oui, on se fait un bloc nouvelle de l'été, en fait, en parlant de cette décision qui est passée le 21 mai, juste après qu'on ait fini l'autre saison. Grosse décision de la Cour suprême qui, après les 6 ans de bataille de Percy Schmeiser, cet agriculteur de la Saskatchewan, qui s'était battu contre la grosse multinationale Monsanto, Monsieur Schmeiser ayant été accusé d'avoir utilisé le canola transgénique de Monsanto, ce qui a décrié, à la Cour fédérale, après ça en cour d'appel, puis là il est abouti dans la Cour suprême pour se faire dire qu'il était fautif et donc il n'a pas gagné sa cause. Évidemment, c'est un très gros dossier au Canada, puisque au Canada et dans le monde, parce que ça aurait donné un précédent incroyable aux agriculteurs un peu partout, parce que Monsanto, c'est que ce qu'elle disait était que on ne peut pas utiliser ces graines, ces semences où que ce soit. Même si ça a été transporté par le vent, même si ça a été d'une certaine façon une contamination génétique sans contrôle. Et évidemment, Percy Schmeiser s'est retrouvé le défenseur des agriculteurs en général, mais malheureusement, il n'a pas gagné. Donc, une grosse décision point de vue dossier des OGM, quelque chose qu'il va falloir suivre, surtout que dans la Cour suprême, la décision s'est prise à 5-4, donc c'était extrêmement serré, une grosse lutte, je pense, puis ça a vraiment déçu beaucoup d'activistes du monde de l'agroalimentaire au Canada comme partout dans le monde.
Donc, comme tu l'as très bien dit, c'est ça. Donc, son champ avait été contaminé par la pollinisation portée par le vent, donc. Et puis, lui, n'a pas eu gain de cause dans cette histoire-là.
Exactement. Donc, il y a vraiment...
est fait.
Non, mais si vous voulez, on pourra faire de toute façon un suivi plus approfondi de ce dossier-là, parce qu'évidemment, il y a plusieurs répercussions. Puis de toute façon, on se fait tantôt un petit bloc OGM où est-ce qu'on pourra approfondir.
Je pense que ça va être important. Donc pour toi, c'était la nouvelle qui a marqué l'été 2004. Patrick Bonin, la question des énergies aussi a marqué l'été 2004. Au Québec, peut-être qu'on vire au vent. Qu'en est-il?
Ben, vous avez tous entendu parler de la fameuse centrale thermique au gaz naturel, dite Le Suroît.
Non, c'est quoi ça?
Ben, si vous n'avez pas entendu parler, on va vous en parler en deuxième partie de l'émission. Il y avait une grosse consultation de la Régie de l'énergie au Québec sur justement cette centrale et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et entre autres, on a eu Hydro-Québec qui, en cours de route, a eu les réponses à son appel d'offres pour 1000 MW d'éolien. Donc, ça fait longtemps, on s'en souvient, le Québec qui dit qu'on veut 1000 MW d'éolien en Gaspésie. Eh bien, à la surprise de tous, les environnementalistes comme les industriels, on a reçu 4000 MW d'offres, ce qui veut dire 4 fois plus. Et ça nous permettrait justement de mettre 4 fois plus, dans le fond, 4000 MW d'éolien simplement en Gaspésie, et ce, d'ici 2011. Ça veut dire que là, on essayait de faire construire une centrale thermique au gaz naturel d'environ 800 MW, mais qu'on pourrait la remplacer d'ici 2008. D'ici 2008, il y a de ces 4000 MW-là, il y en a 3000 qu'on pourrait mettre d'ici 2008, comme ça. Donc, ce que ça fait dire aux environnementalistes, c'est Hydro-Québec, écoutez, on peut se passer du Suroît, il y a beaucoup plus d'avantages, entre autres, pour Hydro-Québec de faire ça, parce que ça, c'est des industriels qui ont proposé de l'éolien. Fait qu'imaginez si Hydro-Québec, avec les gros reins que ça a comme grosse entreprise, se lance justement dans l'éolien avec couplage avec ses barrages, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que les industriels ont plus d'audace qu'Hydro-Québec. Donc, ce qu'on dit, c'est que là, maintenant, on peut déjà faire de l'éolien au Québec, mettre le Suroît de côté avec simplement les offres qu'on a reçues. Ça, c'est juste en Gaspésie. Imaginez si on rentre là-dedans les 100 000 MW d'études d'Elimax qui étaient partout au Québec. Fait que...
Donc, une bonne nouvelle, on vire au vent et puis les producteurs privés soumettent plusieurs projets donc à Hydro-Québec. Par contre, quand on a parlé un peu avant l'émission de cette donnée-là, donc on virait au vent, ce n'était pas que du positif. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais le thermique continue de faire couler beaucoup d'encre et de faire saliver les gens d'Hydro-Québec, semble-t-il.
Et de gaz métropolitain.
Surtout.
Et juste rajouter également que la décision de la Régie, eh bien, un autre appel de 1000 MW qui s'en vient. Donc, on va se retrouver au minimum avec 2000 MW.
2000 mégawatts.
Ce qui est peu, mais qui est quand même un début.
En deux mots, peut-être une dernière belle nouvelle. Est-ce qu'on est capable de dire une dernière... Pas belle, elle n'a pas besoin d'être belle, mais une dernière nouvelle qui aurait marqué l'été 2004, selon vous, messieurs?
Moi, j'en ai une pas mal
Hugo
intéressante.
Lachapelle.
En fait, on a parlé d'hausse des prix du pétrole, on a parlé de la chute de la production et de la vente des SUV. Eh bien, ça s'est accompagné cet été. C'est le Planet Ark qui nous rappelle qu'il y a des véhicules hybrides qui ont été vendus à au-delà de 5 000 $ plus haut que leur valeur de vente. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus que le prix de vente d'une voiture qui sort de la manufacture pour s'approprier un véhicule hybride. C'est à ce point, c'est un état de crise pratiquement. On a besoin de produire plus de ces véhicules-là. On nous rappelle dans cet article-là que le véhicule hybride est, je crois que c'est 0,29% de la consommation des Américains, dans le sens que, en fait, il y a 0,29% des véhicules utilisés par les Américains qui sont hybrides. On veut passer à 5% d'ici 2015.
Les listes d'attente, d'ailleurs, sont de plus de 6 mois et plus aux États-Unis seulement. Donc, c'est une grosse demande.
Ben, en tout cas, s'il y a des entrepreneurs québécois qui ont le goût de se lancer dans la conception d'automobiles, bon, ils ont détruit l'usine de Boisbriand, de GM de Boisbriand, là, mais je pense que ça peut être quelque chose à considérer. Ben, ça va compléter peut-être pour les nouvelles qui ont marqué l'été 2004. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on a encore beaucoup de temps pour vous en parler. Je vous rappelle qu'on prend pas ça, on n'invente rien. On utilise beaucoup les médias, que ce soit la presse écrite ou des magazines, etc. Mais surtout que vous pouvez accéder à toutes ces nouvelles-là qu'on utilise pour vous faire une revue de l'actualité en environnement à partir de notre site Internet, donc au www.radiodelirium.net. Faites-vous le plaisir d'aller voir ça. Je pense qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses sur ce qui se fait en environnement ici au Québec, mais aussi ailleurs autour de la planète.
S'enfonce. Oui, je veux pas m'embarquer. Beaucoup voyagé, moi j'ai volé si haut.